sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à toutes, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs, de 19h à 20h30, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et rediffusée par plein de radios locales un peu partout en France. Comme d'habitude, on les remercie. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Tout d'abord, parce que je suis arrivé en speed dans les studios,
yes.
Parce que j'ai même pas eu le temps de m'asseoir.
Mais on a un revenant... À l'antenne.
Bah ouais, et puis qui en plus contraint tout le monde à revenir. À la base, on n'avait pas trop prévu de faire cette émission. On va vous expliquer tranquillement pourquoi. Mais avant de commencer,
on va peut-être faire les contacts d'abord.
Ouais, tout d'abord, je vais présenter un peu les gens qu'il y a autour de la table. Tout d'abord, il y a Inès.
Salut.
Il y a Gabriel.
Salut.
Et puis un poteau qui nous file un coup de main à la technique. Merci mille fois d'être là. Donc l'émission. Et puis donc Serge qui vous salue.
Et qui est de retour.
ça fait plaisir d'être là. Il manque plus que Sylvia. Mais ça ne saurait tarder.
Et Louise,
bien sûr. Mais c'est, je parlais des gens qui font partie des revenants, parce que Louise, elle continue à faire le taf et tout. Pour commencer, L'Envolée, c'est quoi ? L'Envolée, c'est une émission de radio et un journal qui donne la parole à toutes les personnes enfermées et à leurs proches, et donc on considère tous les lieux d'enfermement, que ça soit bah, donc, bien évidemment les tôles, mais aussi les hôpitaux psychiatriques et les prisons pour étrangers que sont les CRA. Voilà, et donc on essaye de relayer les luttes à l'intérieur qui sont menées par ces gens ou des gens qui peuvent lutter aussi de l'extérieur, mais pour l'intérieur. Voilà, et avec toujours essayer de rapporter de la parole de l'intérieur. Et donc, bah, comme je vous le disais, ouais, c'est une émission un peu spéciale parce qu'à la base, on n'avait pas trop prévu de venir bosser un 1er mai, quoi. Faut pas déconner. Donc voilà, soyons honnêtes, on n'a pas tous été sérieux, on n'est pas tous allés à la manif. Voilà, mais il y en a certains qui ont dû raccourcir leur manif pour pouvoir venir animer cette émission. Mais parce qu'en fait, il s'est passé en début de semaine un truc qui est pas anodin, c'est que, en tout cas, les matons ont annoncé le blocage de la moitié des taux, le ministère 20%, voilà, mais n'empêche que ça reste en fait un gros mouvement et on a entendu plein d'horreurs en ce début de semaine et en fait, ça nous semblait pas possible de laisser passer ça, voilà. Donc, bah, on va revenir un peu là-dessus en deuxième partie d'émission où on va bah, donc parler du blocage des blocages des matons et puis un peu voir ce qu'ils disent notamment sur la surpopulation carcérale, donc ce que nous on appelle le surenfermement de la population et après revenir aussi un peu après la seconde musique sur les batailles des syndicats. Donc c'est une émission qui a été préparée un petit peu à l'arrache, soyons honnêtes. Donc, il est possible que vous ayez des gros sons qui passent, un peu longs, mais on a fait exprès de choisir des trucs qui sont cool pour que vous n'ayez pas envie de lâcher l'affaire. Voilà, et donc, bah, comme d'habitude, on va commencer par des lettres, mais là, c'est pas exactement une lettre, c'est un communiqué de proches qui nous vient de Moulins. Et qui va donc yes. Nous être lu par...
Mais
par,
avant ça, ouais, il pardon. Faut qu'on rappelle les contacts.
pardon.
T'inquiète. Et il faut préciser aussi, même si on l'avait compris, que du coup, c'est l'émission du vendredi 1er mai qui est en direct. Et on le dit parce que comme on fait beaucoup de rediffs cette année, c'est pas toujours facile de s'y repérer. Donc voilà, on y aura pensé cette fois-ci. Et oui, juste pour nous écrire, c'est à l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. On peut nous appeler toute la semaine, nous laisser des messages sur le répondeur, des textos et sur les applis au 07 53 10 31 95. Si vous nous écoutez en direct ce 1er mai, vous pouvez nous appeler au 01 40 05 06 10. On a un site internet, l'envolée.net. Et on est joignable par mail à contact@l'envolée.net et sur Insta à l'envolée journal.
Et juste pour dire, pour les gens qui ont appelé sur l'hôtel, qui devaient être à l'intérieur, si vous ne laissez pas de message sur le répondeur, on ne peut pas vous rappeler, quoi. Voilà. Ou en tout cas, soit laisser des coordonnées ou le numéro pour qu'on puisse vous laisser un message quand on rappelle à l'intérieur. Voilà, parce que ça arrive. Après, voilà, la boîte mail... La boîte mail, le truc de messagerie, c'est un peu chelou comme ça fonctionne. Je suis pas sûr que ça fonctionne toujours, mais en tout cas, voilà, quand on a juste le truc de l'intérieur, en fait, on peut pas savoir qui c'est. Donc voilà, donc bah, la personne qui a appelé il y a une petite dizaine de jours, si je me trompe pas, de pas hésiter à rappeler. Voilà, on essaye de répondre quand on peut et quand on peut pas, on rappelle. Donc voilà, donc pas hésiter à ce niveau-là de retenter l'affaire. Donc, comme on le disait, on va commencer par un communiqué de proches pour ce qui se passe à Moulins.
Donc, le communiqué, il s'appelle « On mange du poison à la centrale de Moulins-Isère ». Depuis des mois, au sein du quartier Maison Centrale de Moulins-Isère, les conditions d'hygiène relatives à la nourriture sont tout simplement inhumaines et dégradantes. Les gamelles, sorties de frigo régulièrement en panne, sont servies pourries, avec une odeur de fumier, comme en témoigne l'un des prisonniers du QMC. L'odeur des plats est plus pestilentielle encore que l'usine de croquettes pour chiens attenante à la prison. Les légumes en boîte qui y sont servis sont périmés depuis 2 ans, mais continuent d'être servis. Même chose pour les desserts, systématiquement périmés depuis plusieurs jours. Bien entendu, il ne vient pas à l'esprit du personnel de l'administration pénitentiaire d'avoir la décence de resservir une autre gamelle, saine, dès qu'un prisonnier se trouve confronté à l'une de ces gamelles au fumier. De nombreux prisonniers se retrouvent donc à ne plus être en mesure de se nourrir. Le risque est d'autant plus grand que dès que l'on tombe malade à cause de la gamelle, il n'y a aucun docteur disponible pour apporter le moindre soin. Et bizarrement, lorsque des prisonniers, pour alerter sur leur situation, écrivent à leur avocat, en principe sous pli confidentiel, les courriers disparaissent dans la nature. Même chose pour les appels aux avocats et avocates qui semblent étrangement fuités. La chef de cuisine est clairement responsable de tels dysfonctionnements. Le fait qu'elle bombarde ses gamelles à l'arôme de purin d'épices chelous ne change rien à la teneur du plat. Et comme plusieurs prisonniers l'ont constaté eux-mêmes, en plus, madame se permet de toucher la bouffe sans gants, elle se gratte les fesses puis trempe ses doigts dans les plats. Livrer de tels repas aux prisonniers est absolument indigne, en plus d'être particulièrement dangereux. Instaurer un climat de pression à l'encontre des prisonniers souhaitant alerter avocats, avocates et juridictions compétentes est intolérable. Il devient urgent que cela cesse immédiatement. Nous appelons toute personne choquée par la situation actuelle à appeler la prison. Donc le numéro de téléphone, c'est le 04 70 35 10 00. Et c'est aussi possible de dénoncer ça en leur écrivant à cette adresse. Direction du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, 21 rue de Millepertuis, BP 24 03 401 Yzeure CEDEX.
Merci beaucoup. C'est hyper important hein, de relayer ce qui se passe à l'intérieur. Il y a vraiment un truc de danger assez hallucinant. Mais de manière générale, il y a ce truc qui est assez hallucinant et que l'administration pénitentiaire, de toute façon, prouve comme d'hab qu'en fait, elle n'en a rien à foutre des gens à l'intérieur. On avait vu ça aussi quand il y avait de la légionellose à la MAF de Rennes et tout ça, où en fait, ils laissaient le truc se passer et tout ça. Et donc, la santé des prisonniers et des prisonnières, l'administration pénitentiaire en a vraiment rien à foutre.
Ouais, et carrément, et en plus c'est bien précisé aussi et mis en lien avec la question de l'accès aux soins en prison. C'est quelque chose qu'on ne cesse de rappeler justement à cette antenne. C'est déjà avec la dégradation du système de santé, c'est compliqué dehors de trouver un médecin. Alors faut imaginer à l'intérieur où la santé des prisonniers, c'est le cadet des soucis de l'administration pénitentiaire, souvent la grande solution au moindre problème, ça va être un Doliprane. Et donc, c'est de plus en plus difficile de pouvoir voir un médecin. Et encore plus, c'est pas sans lien aussi avec ce dont on va parler tout à l'heure, mais avec toutes les revendications des matons qui expliquent que la moindre extraction médicale, ça devient un truc insurmontable pour eux. C'est d'autant plus risqué et dangereux pour les prisonniers de manger un truc qui peut les rendre malades, mais qui peut causer des trucs vraiment graves. Quoi. C'est pas juste une petite indigestion quand on voit les dysfonctionnements qui sont mentionnés ici.
Et d'ailleurs, sur cette question de amener au médical et tout ça, et amener à l'hôpital et tout, c'était faire les escortes, en fait, ça a été une revendication de l'administration pénitentiaire. Alors, je crois qu'il y a une 10-15 d'années où, en fait, ils ont récupéré ce truc. Avant, c'était les gendarmes ou les keufs, en fait, qui faisaient ces transferts. Et en fait, ça a été les matons qu'on revendiquait pour pouvoir être toujours plus nombreux à avoir. Et donc, ça va faire vraiment des coups à ce qu'on disait, ce qu'on dira tout à l'heure, mais ils ont vraiment revendiqué ce truc pour être que ça soit une nouvelle tâche qui soit à eux de le faire. Et après, derrière, c'est parce que c'était une manière de d'avoir des armes, en fait, parce que c'était pour ça qu'à la base ils avaient interdit, enfin que c'était pas les matons qui faisaient les escortes, c'est parce qu'en fait il y avait pas d'armes, mais donc ça a été une manière d'armer en fait les matons. Et donc les matons après derrière ils ont obtenu ce truc là, et puis maintenant ils disent en fait on n'est pas assez pour pouvoir le faire, et donc ils le font pas quoi. Et donc ça prend pour les escortes pour le médical, mais c'est des fois c'est encore plus dramatique humainement quand c'est pour la question d'un enterrement ou autre où on peut pas, où soi-disant l'administration pénitentiaire n'a pas assez de personnes pour permettre d'aller voir l'enterrement de son proche ou ce genre de choses.
Et au-delà de la question des extractions, la flemme des matons, ou en tout cas leur refus de se bouger pour des prisonniers malades, c'est même aussi à l'intérieur de la prison. Combien de témoignages est-ce qu'on a lu de personnes qui nous disaient que ils avaient rendez-vous chez le médecin et que ils avaient rendez-vous donc à l'intérieur du service de santé de la prison, que les matons leur disent à la personne non, le rendez-vous il est annulé. Et puis après, la personne elle apprend que les matons ont dit au médecin non, il a pas voulu venir, en fait il devait plus avoir mal, parce que juste ils ont la flemme d'escorter les prisonniers de leur cellule jusqu'au service médical.
Et ça, on peut en vouloir aussi aux médecins qui sont à l'intérieur de la tôle, qui acceptent toujours ce genre de discours de la part des matons, alors que, faut être vraiment naïf, pour pas dire complètement teubé, de croire que, en fait, quand un maton il dit que la personne elle a pas envie de venir, alors que en fait ça fait trois mois, semaine que tu demandes un rendez-vous au médical, tu sais que c'est des conneries. Donc donc ils se cachent derrière leurs petits doigts à ce niveau-là, et ça c'est vraiment problématique, et ils font pas un minimum de contre-pouvoir, si encore ça pourrait exister, de la part d'un corps médical contre ça. Donc ça c'est sur les bails de santé. Après, derrière, sur la bouffe, alors moi je sais pas c'est quoi, s'il y a une régie ou pas à Moulins mais en gros quand même, dans la grosse majorité des tôles en France, la bouffe elle est faite par Sodexo, qui est une entreprise capitaliste, comme toute entreprise dans notre monde, quoi, qui s'en met vraiment plein les fouilles sur le dos des prisonniers, et qui se retrouve aussi parfois à gérer les cantines, et donc à se faire de la thune sur les cantines ou ce genre de choses, quoi. Et donc Sodexo, ils font vraiment de la merde comme bouffe, quoi. De toute façon, pour des gens qui ont eu la malchance d'avoir faire un séjour à l'hôpital ou autre, vous voyez bien ce que c'est, ce que vous avez comme bouffe dans les hostos. C'est encore pire dans les tôles, parce qu'ils mettent encore moins de thunes que ce qu'ils mettent, quoi, et donc ils font juste en sorte que ça soit aux recommandations de, je sais pas comment ça s'appelle, mais à caloriques par jour, quoi, mais c'est vraiment la bouffe la plus dégueulasse qui peut exister. Donc, bien évidemment, quand tu laisses à l'espace capitaliste des choses comme ça, bien évidemment que la bouffe, ils vont te faire de la thune dessus, et donc te faire bouffer vraiment de la merde, quoi. Et en fait, faut pas minimiser le rôle qu'a la bouffe en détention. Et pour ça, je voulais juste rappeler deux bouquins qui ont été publiés ces derniers temps.
Il y avait déjà le bouquin Mange ta peine de Mauben, qui lui a valu, on en a beaucoup parlé, mais quand même un transfert en QLCO, un transfert punitif, mais qui expliquait justement à quel point les cantines, c'est super important justement pour échapper à la gamelle. Et là, on voit à quel point à Moulins, c'est vital, en fait, d'échapper à la gamelle. Mais cuisiner en prison, ça n'a rien d'évident. Il faut le faire avec très très peu de matériel, et avec surtout des choses qui coûtent extrêmement cher, puisque Sodexo, l'administration pénitentiaire, etc., se font quand même une thune de ouf sur le dos des prisonniers. Et c'est un livre qui explique un peu toutes les manières d'améliorer un petit peu le quotidien avec peu, y compris parfois en réutilisant des trucs de la gamelle, même si manifestement, là, c'est pas quelque chose qu'on recommande dans le cas de Moulins.
Non, clairement pas à Moulins, quoi. Mais c'est un livre de recettes, et puis ça commence par une première partie sur c'est quoi la détention, quoi.
Et on rappelle d'ailleurs que ce livre, si vous nous écoutez de l'intérieur, vous pouvez vous le faire envoyer gratuitement. Donc il faut soit écrire aux éditions du Bout de la Ville qui l'ont publié, soit nous écrire à nous, et nous on relaiera l'information. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire, on l'envoie gratuitement à celles et ceux qui voudraient l'avoir à l'intérieur. Et vous pouvez aussi l'acheter à l'intérieur pour soutenir tous ces envois
À l'extérieur.
À l'extérieur, pardon.
À l'extérieur.
Fatigue.
À l'extérieur, c'est important de soutenir et tout ça. Et au-delà de ça, soutenir par rapport à ce qu'a subi Mauben. du transfert disciplinaire à Condé, quoi. L'autre bouquin dont on voulait parler, c'est un peu de bon sens que diable, par les éditions Niette. Là, de la même manière, vous pouvez nous écrire pour qu'on propose aux éditions Niette, enfin qu'on leur envoie vos contacts pour qu'ils vous l'envoient gratos, parce que c'est gratos, pardon, je suis désolé, pour les prisonniers à l'intérieur aussi. Et donc c'est un bouquin en fait qui revient sur comment la détention altère l'ensemble des sens, dont le goût. Voilà, et rappelle en fait à quel point le fait d'avoir cette bouffe fadasse et tout en fait rajoute. Enfin voilà, c'est compliqué, et comment aussi le fait que la bouffe, c'est quand même un des rares petits trucs sur lesquels tu peux parfois un peu améliorer ton quotidien. Voilà, donc c'est un truc quand même qui est vraiment hyper important et tout. Donc voilà, c'était des trucs qu'on pouvait dire là-dessus. C'est hyper important de relayer au maximum ce communiqué, parce qu'on sait comme toujours que l'administration pénitentiaire, elle aime pas qu'on raconte ce qui se passe à l'intérieur et tout. Et donc là, c'est vraiment cool que les proches ils aient fait sortir ce communiqué-là sans mettre en danger les gens à l'intérieur et tout. Donc voilà, c'est aussi des trucs que qu'en tant que proche, c'est possible de faire, bien évidemment, en discussion avec les gens à l'intérieur pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de répression. Comme on a pu la décrire tout à l'heure sur Mobène.
Et donc on appelle à passer les coups de téléphone et à envoyer les courriers, comme c'est précisé. Et puis tout ça, d'ailleurs, ce communiqué est disponible sur le site de l'Envolée. Donc si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse ou le numéro de téléphone, vous inquiétez pas, c'est en ligne. Et donc voilà, on appelle à mettre un maximum de pression sur la direction de Moulins.
Carrément.
Et peut-être avant de passer à la raison pour laquelle on est ici un 1er mai, qui est de parler de ce blocage des matons, on veut quand même dire un mot justement sur le 1er mai. C'est aussi l'occasion de parler de la question du travail en prison, de l'absence de droit du travail en prison. On se rappelle qu'il y a une époque pas si lointaine, il y avait des gens qui tractaient justement pour ces questions-là dans les manifs, qui dit fait des tracts.
On était accueillis. Hein. Souvent, les gens, ils disaient, c'est quoi ce délire? Enfin, voilà quoi. Voilà. Mais ça permettra de revenir un peu, comme tout à l'heure, on va parler des syndicats de matons et tout ça, voir quand même, il y a un truc qui est un peu délirant là-dessus. Mais les gens, ils étaient là, voilà quoi. Dans mes souvenirs, il y a même eu un article dans la presse parlant de revendications loufoques ou un truc comme ça.
Ouais, alors que c'est aussi parce que les gens oublient que, la prison, c'est un endroit où il y a plein de gens qui travaillent dans des conditions vraiment horribles et inhumaines. Si on voit ce qui se permettent sur la bouffe, on voit aussi ce qui se permettent, ce que l'administration pénitentiaire se permet sur la question du travail et pour des salaires qui sont vraiment complètement dérisoires, quoi. Et en même temps, des salaires qui sont aussi hyper importants et vitaux pour les gens à l'intérieur. On vient de dire à quel point c'est essentiel de pas dépendre de la gamelle et de pouvoir cantiner et donc s'acheter de la nourriture. Vu comme la nourriture coûte cher à l'intérieur, un des moyens de cantiner quand on ne peut pas compter aussi sur la solidarité de ses proches, c'est de travailler, même pour des sommes d'argent qui sont vraiment dérisoires. Et donc le travail, c'est aussi un levier, une forme de, toujours dans cette mécanique de la carotte et du bâton, c'est aussi un moyen pour l'administration pénitentiaire d'exercer une pression très forte sur les prisonniers et les prisonniers, puisque le chantage au déclassement, c'est-à-dire au fait de perdre son travail, c'est quelque chose dont nous avait par exemple beaucoup parlé Aurélie, dont nous avait beaucoup parlé Blanche. C'est quelque chose qui revient quand même vraiment souvent. C'est aussi un moyen pour l'administration pénitentiaire de s'assurer que tout le monde à l'intérieur se tienne à carreau, puisque si tu perds ton travail et que tu n'as pas des proches qui peuvent t'aider financièrement, tu te retrouves à ne pas pouvoir cantiner et avoir un quotidien qui est encore pire que ce qu'il est.
Bah puis même en plus de ça, enfin le fait que ça permet de sortir de sa cellule, donc ce qui est déjà un truc vraiment vraiment très important, parce que ça veut dire que tu sais que tu vas pouvoir sortir tous les jours de ta cellule généralement quand tu travailles et tout, en plus de la rémunération que ça va pouvoir apporter. Et donc bah comme tout en fait, c'est le jeu du carotte et la bâton et du bâton pardon, et donc la notamment enfin voilà le fait d'obtenir du travail en détention, c'est aussi une forme de récompense de la part de l'administration pénitentiaire qui l'utilise de cette manière-là. Bah sur la rémunération, en fait, peut-être revenir en fait sur le fait que bah, historiquement, en fait, principalement en détention, en fait, on rémunérait à la tâche. Voilà, donc c'était quand même vraiment enfin de l'archaïsme le plus total, quoi. Donc on rémunérait les gens à la tâche. Après derrière, bah ça, en fait, ça a quand même un peu choqué l'opinion publique ou en tout cas certains grands humanistes de gauche. Voilà, et donc ils se sont dit, ah quand même, ça craint de faire la rémunération à la tâche. Ça fait quand même un peu moyenâgeux. Et donc peut-être qu'on va arrêter la rémunération à la tâche. Et donc là, à ce moment-là, au lieu de mettre en place un SMIC ou ce genre de choses, et puis les droits qui auraient avec un contrat de travail. Et ben en fait ils ont juste, enfin c'est ce qu'on fait en fait les boîtes privées qui sont là-dedans, ils ont regardé bah en fait en une heure combien tu dois faire bah je sais pas, enfin de coffrets de parfum ou ce genre de choses, et à ce moment-là bah on te dit bah tu dois faire tant de boîtes pour ça, et ça a été particulièrement le cas en fait où en fait la rémunération à la tâche elle a continué en fait quand il y avait du travail en cellule, parce qu'en fait il n'y a pas tout le travail en détention qui se fait dans des ateliers et tout. Il y a aussi, je donnais cet exemple, mais il y avait aussi des pochettes de magazines ou ce genre de trucs. Enfin, voilà, il y avait des trucs que tu pouvais faire dans ta cellule, notamment. Et donc, là, les gens, tu vois, comme un bon patron, ils disent, attends, je ne peux pas te surveiller quand tu es à l'intérieur de ta cellule et tout. Et donc, ils ont dit, en fait, si tu fais 1200 boîtes, ça veut dire que tu as travaillé 5 heures ou je ne sais pas. Enfin, voilà, quoi, je donne des chiffres au hasard. Mais donc, en fait, le travail à la tâche, il a continué, sauf qu'en fait, la fiche de paye, il y a écrit que tu as bossé 5 heures, mais en fait, effectivement, tu avais mis 1200 boîtes. Enfin, je ne sais pas quels sont les chiffres qu'ils avaient pour leur truc, mais donc, en fait, ça a continué, quoi. Donc la rémunération, en fait, vu qu'ils font croire que le travail en détention c'est de la réinsertion, bah il y a pas besoin de le rémunérer, voilà. Et en fait c'est ce qu'ils imposent aussi dans plein d'autres secteurs que la prison, voilà. Je pense qu'on peut parler des ESAT par exemple, où en fait on exploite complètement soi-disant, parce que les gens sont des travailleurs en situation de handicap, voilà. Et donc en fait c'est toujours en fait un argument donné par les politiques et les capitalistes pour dire vas-y, on va détruire complètement tous les acquis sociaux et autres pour certaines personnes, parce que c'est de la réinsertion. Et derrière ce saut de la réinsertion, et ben en fait, on va pouvoir continuer à exploiter de manière folle les gens, que ça soit en prison ou sous d'autres statuts à d'autres endroits. Voilà.
Et ouais, bah c'est présenté quand même comme une immense faveur que feraient les entreprises qui daignent fournir du travail à ces pauvres prisonniers, parce que c'est ça quand même le discours qu'on entend, alors que c'est archi rentable pour eux, quoi. Enfin, c'est genre méga lucratif en fait de faire produire des trucs par les prisonniers. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur la fin du travail à la tâche, ça c'est vraiment quelque chose dont nous avait beaucoup parlé Blanche, je pense il y a un ou deux ans, c'est que lui c'est un prisonnier vieillissant, enfin voilà, il va sur, enfin il est dans sa soixantaine, et il disait que en fait on le lui faisait sentir, et on disait il y a pas de travail à la tâche théoriquement, mais quand même t'es censé faire tant de pièces en une heure, et bah si t'atteins pas les quotas, en fait on va filer ton travail à quelqu'un d'autre. Et donc il y avait une, enfin c'était quelque chose qui nous expliquait lettre après lettre l'angoisse que c'était d'être pas assez productif, quoi. Donc bon, ça fait quand même un peu doucement rire cette histoire de fin du travail à la tâche, quoi.
Puis ça c'est le cas dans toutes les boîtes, tout ça pour les personnes âgées et tout ça, mais ça s'applique de manière beaucoup plus facilement, enfin en tout cas ils peuvent licencier beaucoup plus facilement, parce qu'en fait il suffit de dire il n'est pas assez efficace, mettez quelqu'un d'autre, et en fait il n'y a personne qui check sur la question de à quel point ils font du bénéf à l'intérieur. Donc c'est toujours un peu l'argument qui est donné, c'est ouais mais de toute façon sinon ils vont délocaliser ailleurs, voilà. Et donc bon, ça c'est comme d'hab, enfin je veux dire, en fait on l'entend tout le temps à l'extérieur, donc c'est exactement le même raisonnement qui est à appliquer. Un des trucs qui est vachement important là-dessus, c'est qu'en fait, une grosse partie des travailleurs en détention, c'est des oxys. Donc en fait, c'est des bénéfices que se fait l'administration pénitentiaire sur des prisonniers. Voilà, donc en fait, ça, enfin voilà, c'est... Entre guillemets, les oxys, c'est du travail qui est non délocalisable, quoi. Donc, voilà.
Bah, c'est clair que ça coûte moins cher à la paix de faire peindre un mur d'un couloir par des prisonniers pour ou faire repeindre des cellules vu les salaires que d'embaucher une entreprise qui va peindre à des salaires de l'extérieur, quoi. Donc c'est vraiment extrêmement rentable.
Et donc ça c'est ce que nous raconte quand même beaucoup de lettres de ce qui se passe. Donc rémunération vraiment catastrophique, bien évidemment pas d'arrêt maladie. Voilà, donc quand t'as un truc qui te tombe sur le pied ou je sais pas trop quoi et tout ça, t'as pas ni d'arrêt maladie ni après en fait d'accident du travail qui peut y avoir en détention, t'as pas non plus de vacances. Voilà, le seul truc qu'ils ont rajouté très récemment et de manière hyper bâtarde, ça a été Dupond-Moretti qui a voulu relancer le travail en détention et tout ça. Alors bien sûr il l'a pas fait en mettant le droit du travail en détention, mais il y a eu un tout petit truc qui a été rajouté, donc toute l'aspect santé parmi les droits du travail, ça n'a pas été rajouté. Par contre, ils ont rajouté un truc sur la retraite où tu vas pouvoir potentiellement toucher un brin de retraite au pourcentage de combien tu auras été rémunéré. Donc, en fait, c'est vraiment...
Lol, quand on voit les rémunérations.
Voilà, c'est vraiment peanuts, quoi. Enfin, c'est vraiment du foutage de gueule, mais c'était comme ça, tu pouvais annoncer, on a créé une retraite pour les prisonniers, tout ça. Vous avez vu comme on est de gauche et humaniste. Donc ils ont annoncé ce bail-là, sachant que quand même c'est pour dire à quel point c'est des chacals, quoi. Ils ont dit que tu ne pourrais toucher ta retraite qu'une fois sorti. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es en détention, que t'arrives à l'âge légal de la retraite et tout, et ben en fait, t'auras pas le droit de toucher les droits que tu te seras ouvert à l'intérieur. Il faudra que tu sois sorti pour pouvoir les toucher. Voilà ce qui montre bien.
Ouais, c'est d'une inhumanité pour toutes les longues peines qui sont énormément concernées par ça, quoi.
Donc ça a été le truc, ça s'est allié avec un petit logo, produit dans les prisons françaises. Donc ça c'était vraiment le summum de l'ignominie, et il y avait toutes ces entreprises de l'économie sociale et solidaire qui bien sûr va nous sauver du capitalisme et qui étaient hyper fiers d'arborer ce logo. Donc tu pouvais voir ça dans des trucs. Enfin c'était pouf. Voilà, on va pas en faire des tonnes. Vous voyez bien le délire que c'est. Mais ça nous semblait important le 1er mai de rappeler ce truc-là, de rappeler qu'à une époque ce serait bien que ces tracts qui ressortent et qui continuent à être rediffusés, mais on est les premiers fautifs à ne pas aller le faire dans les manifs du 1er mai.
Bon, on n'est pas surpris que la CGT qui accepte de syndiquer des matons ne se fasse pas le relais de ces questions-là. Ça va nous permettre de faire le lien tout à l'heure avec ce dont on va parler sur les blocages et les syndicats
puis,
de matons.
Puis ça a été un gros truc aussi, le droit du travail. Ça a été aussi une lutte juridique qui est vraiment pas passée loin du tout au Conseil constitutionnel. Ça s'est joué à la voix prépondérante du président, ça s'est vraiment joué à rien du tout, tout simplement parce qu'en fait si on fait un truc vraiment juridico-juridique, il n'y a pas à chier. C'est du travail en détention et il n'y a pas d'excuses. Mais donc, c'est toujours ce truc de comment, sous couvert de réinsertion, t'exploites les gens de ouf. Et donc, c'est toutes ces entreprises de l'économie sociale et solidaire qui vous exploitent encore plus. Et puis, t'inquiète que le patron, lui, il n'est pas exploité comme ça et il se met bien.
On va passer un petit coup de musique et après on va parler de ce blocage.
Mieux vaut être détesté par des impuissants, être aimé par le tout-puissant. Tout un art maîtrise le game jusqu'à 10%. 25 ans, je fais couler que du pu en perçant. Je les lave du haut de ma tour d'ivoire en puissance. Ça kick en croissant, je divertis pas les gamins de 13 ans. Rappeur conscient, frontline. Confier sa santé à Bill Gates, c'est comme confier sa fille à Epstein. Je veux rien, les hlèles, tout est cruel. Garde les coups.
conseils. J'ai la vision infrarouge à boîte séquentielle. Plus de combat dans ma chaîne de transmission que ta zen. Je négocie pas un lion, n'épargne aucune gazelle. On s'est classé qu'un Paris-Marseille, qu'un Z à Bruxelles. Loyal et fidèle, on se laisse pas toucher la rondelle. Le rap mon terrain, j'en cède aucune parcelle. J'ai pas fini de manger, ils ont pas fini de laver ma vaisselle. Je les cancel, trop de QI pour ces P4. Je rappe pas pour les petits, je suis pas pédiatre. Porte les médias, qu'on s'en striche et faux stats. Je rajeunis, ils ont cancer de la prostate. Rap, business, basket, le taf, la S, le Jax, maîtrise ton game. La famille, les ennemis, plus fiers que tes faux amis. Plus de money, plus de tada, maîtrise ton game. Box, MMA, pas de cinéma, j'ai confiance comme mon œuf, comme Al Hilal. Je maîtrise le game. Jacques, sur les réseaux, je t'éclate dans la pire et je maîtrise pas le viol, le poids, c'est la crème. J'ai confiance en moi comme Bounty, je détruis les Bounty, ça pue comme des patounty. Une carrière en dancy, un requin dans l'aquarium. Mettre un clown sur un trône, fais pas d'un cirque un royaume. Je construis mon agenda, leur gloire n'est pas si bonne, elle m'attire pas. Ils veulent passer de fumée, de joints sans tabac. Pose le micro ou je t'abats. Petit, tu t'es trompé de camp, laisse ça. Je me fais l'air ça, à perdre ta valsa. Je peux perdre la vie, mais pas la face, ils retournent leur veste là. Chef de famille, j'avance sans faire de bruit comme Tesla. Regard noir, le cœur blanc, on n'est pas Sistra. Ça part de Moroni, Bamako jusqu'à Biskra. Parcours atypique, ça mérite un biopic. Passeport de la street, les couilles biométriques. Je viens d'en bas comme un high kick, je maîtrise mon karaté. La concu, c'est de l'eau, je ne fais que m'hydrater. Ils prennent l'enfer pour les tropiques, j'écoute pas ces boîtes taradées. Ils savent qu'elle est pas adresse, sans aucun lien de parenté. Pas le temps de parader, ni fêter des parodies. Je pense qu'à me retirer, je m'inquiète pour mon paradis. Rap, business, basse, le temps, la S, le Jax, maîtrise ton game. La famille, les ennemis, plus fiers que tes faux amis. J'ai confiance comme mon œuf, comme Al Hilal. Je maîtrise le game. J'acte sur les réseaux, je t'éclate dans la vie réelle. Je maîtrise le game. Rap, business, la street, le taf, la S, le Jax. Maîtrise ton game. La famille, les ennemis, plus fiers que tes faux amis. Plus de money, plus de tada. Maîtrise ton game. Box, MMA, pas de cinéma. J'ai confiance comme mon œuf, comme Al Hilal. Je maîtrise le game. J'acte sur les réseaux, je t'éclate dans la vie réelle. Je maîtrise le game.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours en direct le vendredi 1er mai dans l'émission L'Envolée sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 comme tous les vendredis de 19h à 20h30. On rappelle très rapidement les contacts pour nous écrire, c'est à L'Envolée-FPP, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. On peut nous joindre toute la semaine par répondeur et par texto et sur les applis au 07 53 10 31 95. Si vous nous écoutez et que vous voulez nous appeler en direct, c'est au 01 40 05 06 10. On peut nous joindre par mail à contact@l'envolée.net et on est sur Insta à @l'envolée journal. Et donc, on fait cette émission le vendredi 1er mai parce qu'il y a eu un gros blocage des matons ce lundi, donc c'était le 27 avril, et ça nous semblait vraiment très important de revenir sur ce qui s'est passé.
Ouais, carrément. Bah, alors, en gros, c'est un blocage qui a été revendiqué par l'UNSA et la CGT, principalement. Et ils revendiquent une centaine de tôles qui auraient été bloquées. Le ministère, eux, ils annoncent 22%. Donc, en gros, une cinquantaine, un peu moins de 50, 40 établissements qui auraient été bloqués. En soi, le nombre d'établissements qui a été bloqué, tout ça, ça c'est leur guéguerre, on y reviendra mais on a quand même entendu tout le lundi un certain nombre de dingueries, à quel point les matons, ils étaient contre la surpopulation.
Ils souffrent,
voilà, et tout. Et donc, c'est globalement assez insupportable d'entendre ce genre de choses.
Et d'autant plus que c'est pas forcément vrai quand on entend ce qu'il raconte dans les micros. Il y avait vraiment un décalage dans les articles ou dans les micros des grandes radios où en fait ce que eux racontent, c'est que ce qu'ils appellent la surpopulation est insupportable pour leurs conditions de travail. Parce que pour eux, ça génère des troubles, des choses auxquelles ils sont pas formés et que ça rend le métier moins attractif pour eux. Le reste, ils s'en foutent. Les matelas au sol, c'est parce que ça génère des conflits qu'il y a des problèmes. Pas pour autre chose. Et la presse, c'était pas du tout ce qu'elle relayait en créant un discours, bon, qui est bien sûr tout à fait valable, bien sûr, c'est scandaleux, mais qui n'était pas les discours des syndicats de matons du tout.
Ouais, eux-mêmes, ils humanisaient en fait les matons en fait en disant ouais non mais en fait ils sont gentils, c'est vraiment ce qu'ils font pour les prisonniers parce que ils se plaignent de voilà, alors qu'en fait ce qu'ils contestent est le fait que bah ça dégrade soi-disant leurs conditions de travail. Ça, c'est vrai que c'était quand même vraiment vraiment une dinguerie quoi.
Ouais, on a passé une semaine à lire dans la presse, enfin là toute la semaine à quel point, enfin voilà, que les matons c'était ces grands dénonciateurs des conséquences horribles de la surpopulation carcérale.
Un contre-pouvoir.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, non mais c'est vraiment ouf, voilà, surtout que arrive en milieu de semaine là les derniers chiffres de la surpopulation où donc l'administration pénitentiaire a comptabilisé qu'elle enfermait, alors à chaque fois, il faut bien rappeler que ces chiffres, en fait, c'est les gens qu'elle enferme. Voilà, mais en fait, elle va contrôler et surveiller beaucoup plus de monde que ça, parce qu'il va y avoir toutes les personnes placées sous main de justice ou toutes les personnes sous bracelet. Et donc, il y a plein d'autres personnes qui sont enfermées que simplement les 88 150 personnes au 1er avril. C'est un chiffre astronomique de surenfermement de la population, notamment parce qu'il y a 5000 personnes qui ont été enfermées de plus en un an. Donc c'est vraiment, c'est hallucinant, c'est plus de 5% en un an, ça va très 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 vite. Voilà, et on a des taux de surenfermement qui sont hallucinants. En Île-de-France, il y a plus de 160% d'occupation des places de prison, sachant que la loi qui est toujours bien respectée quoi, dit que doit y avoir un encellulement individuel depuis je crois une centaine d'années, un bail comme ça et tout, et que quand ils comptent ce nombre de places en fait c'est des doublettes partout et tout quoi, donc en fait c'est vraiment astronomique s'ils voulaient respecter un minimum de bail. Nous on rappelle qu'à Lanvaux on n'est pas nécessairement pour en fait l'encellulement individuel pour tout le monde, et que par contre ça doit se faire au choix des gens quoi. S'il y a des gens qui préfèrent être seuls en cellule, bah c'est très bien, mais si en fait t'as envie d'être à deux avec quelqu'un d'autre et tout ça, et voilà, parce qu'en fait on sait très bien aussi que l'isolement, enfin voilà, je spoil, mais qu'en fait l'enfermement seul en cellule c'est aussi une manière d'isoler, et donc c'est pas nécessairement tout ce qui doit être, enfin ça doit pas devenir une norme intangible et en fait juste un droit pour les prisonniers à l'intérieur de choisir de pouvoir être enfermé seul dans sa cellule. Voilà, et juste pour continuer à donner des chiffres, plus de 150% pareil dans la région toulousaine ou en outre-mer. Voilà, donc ce qui est vraiment un niveau hallucinant où on va avoir des quadruplettes qui se développent dans les maisons d'arrêt. Enfin voilà, c'est bien. Enfin vraiment c'est inimaginable quoi, enfin je veux dire s'imaginer à 4 22 heures sur 24 dans une cellule de 9 ou 12 mètres carrés, enfin il y a quelque chose de enfin, c'est impalpable, quoi. Enfin,
ouais, ça veut dire que concrètement, si c'est toi qui as le matelas par terre, ça veut dire que bah, les gens ils doivent l'enjamber pour rejoindre leur lit. Enfin, voilà, il faut vraiment se projeter concrètement dedans. Et juste par rapport à... Enfin, on va en reparler de toute façon tout à l'heure, mais par rapport à cette augmentation, là, plus 5000 prisonniers en un an, ça fait quand même pas mal de mois, si ce n'est d'années, qu'on fait des émissions à l'envolée où on parle des mesures du gouvernement, des projet de loi de Darmanin, etc. Et en fait, c'est pas juste un truc qui permet à Darmanin d'occuper l'espace médiatique, même si évidemment il adore, ça a des conséquences réelles sur le fait qu'on enferme de plus en plus. Et donc, c'est aussi la conséquence de toutes ces lois-là, quoi. Mais on aura l'occasion d'y revenir.
Bah, donc ouais, le premier truc qu'on voulait faire, c'était revenir sur c'était quoi les conséquences du blocage. Alors bien sûr, en fait, bah là, on fait l'émission un peu rapidement, donc on n'a pas encore de retour de la part des gens qui nous écrivent habituellement pour nous raconter comment ça s'est passé pour eux dans leur tôle. Ça ne veut pas dire nécessairement que leur tôle elle a été bloquée et tout, donc pas sûr qu'on... Enfin voilà, on verra si on a des retours là-dessus. Si jamais, en tout cas, vous entendez cette émission et tout ça, n'hésitez pas à nous écrire pour nous raconter comment ça s'est passé pour vous. Voilà, mais donc pour expliquer de l'intérieur comment ça se passe quand il y a un blocage, bah en fait on est simplement allé rechercher, parce que ça se passe toujours de la même manière en fait, des personnes qui nous ont écrit en 2024 quand il y a eu un gros blocage aussi. Pour nous raconter, bah ouais, à l'intérieur, comment tu vis le fait d'être bloqué et tout. Donc, on va commencer par une première lettre qu'on avait trouvée sur les réseaux sociaux à l'époque. Je suis incarcéré à Perpignan, à la maison d'arrêt. Ça fait 2 jours que les surveillants bloquent la prison dans son intégralité. Aucun mouvement, aucune douche, aucun parloir, aucune promenade. Aucune livraison de cantine. Même le courrier que l'on veut poster nous est refusé. Les poubelles s'entassent dans les cellules. Les mots du chef, nous sommes en guerre contre vous. J'ai peur. Nous avons tous peur et nous ne comprenons pas ces punitions collectives, bien que nous compatissions un minimum avec le tragique événement horrible qui s'est passé dans l'heure. Aidez-nous s'il vous plaît, je ne sais pas vers qui me tourner, j'ai tout essayé.
Le deuxième témoignage qu'on voulait lire, c'était un témoignage qui nous venait du centre pénitentiaire pour femmes de Vivonne, vers Poitiers, donc toujours pour le blocage de 2024. Pour en revenir à l'actualité, 2 surveillants tués à la suite de l'évasion d'un détenu à Évreux, oui, c'est triste. Mais avec leur blocage, on en a payé les conséquences. À Vivonne, blocage mercredi, jeudi et vendredi. Ouverture des portes entre 9 et 10 heures, pas de promenade le mercredi. 3 jours sans parloir famille, ni parloir avocat. Pas de livraison de courrier, seulement cantine de tabac. Comment c'était dans les autres prisons ? J'aimerais bien avoir le vécu d'autres détenus pendant ces 3 jours. Ah, et ce midi, ou plutôt ce matin, je ne sais pas quel mot je dois employer, nous allons avoir le repas à 10h30. Non, c'est pas une blague. Sûrement dû à l'hommage aux surveillants tués. Bienvenue à Vivonne. Et donc ça, c'était une lettre que nous avait envoyée Aurélie.
Et on va encore lire un témoignage sur les réseaux sociaux qui vient d'un prisonnier des Baumettes et qui est aussi paru dans la même période, mi-mai 2024. Il nous lève des douches, il nous donne le pain à 20h, il nous prive de nos droits minimum, 1 heure de promenade par jour, il prive parfois de nos parloirs famille, il nous prive de nos activités, école, stade, muscu, il nous prive de nos cantines. Toute l'année, on doit subir. Il nous lève nos téléphones, notre fumette, nous parle comme à des moins que rien, et on doit encore subir car des surveillants sont fait tuer à 900 bornes d'ici. Perso, la promenade, je m'en bats les couilles, mais les parloirs et les cantines, c'est la seule chose qui nous font tenir dedans.
Ouais, bah donc là, ça décrit bien en fait comment ça se passe à l'intérieur en fait quand il y a des blocages. Alors là, c'était un blocage qui avait duré un peu plus longtemps et tout, mais tu peux pas non plus aussi généralement voir ton avocat dans ce genre de situation. Mais donc ouais, t'as pas d'activité, tout ça. Généralement, tu vas pas pouvoir bosser et tout. Et en fonction des tôles qui sont bloquées, comment ça se passe, souvent t'as pas de promenade quoi.
Et t'as pas les parloirs famille aussi. Ouais. Enfin, c'est en fait là quand les matons ils font ça, ils infligent pas seulement des conditions qui, enfin, ils rajoutent pas seulement un niveau d'horreur à des conditions qui sont déjà horribles aux prisonniers, mais ça a aussi des conséquences pour les familles qui savent que voilà, elles risquent de pas pouvoir, si elles avaient un parloir prévu ce jour-là, qui est parfois un truc hein, quand ton proche il est détenu dans une prison à l'autre bout de la France, t'as payé des billets, t'as payé peut-être un hôtel, tu t'es arrangé parce qu'en plus c'est pas des prisons auxquelles t'accèdes facilement, donc c'est toute une galère et toute une logistique qui tombe à l'eau en deux secondes quoi. Donc c'est, ça a aussi des conséquences pas que pour les prisonniers et les prisonnières mais aussi pour leur famille.
Et tu le disais, ceux qui se déplaçaient, ils étaient accueillis devant les prisons par, par des chants grivois. Ah, vous n'avez pas de parloir aujourd'hui. Enfin, on entendait ça carrément dans les interviews de Maton qui sortaient à la radio où en fait, ils chantaient ça normal aux proches qui étaient venus devant les prisons parce qu'ils n'avaient pas eu d'autres moyens de s'organiser.
Et ça, ce que tu dis, ça fait carrément écho avec quelque chose qu'on dit souvent à leur volée quand il y a des blocages de prison par les matons. C'est que, enfin voilà, c'est quand même un bail la manière dont ils exercent leur droit de grève.
Qui n'ont pas.
Non, mais genre...
Ils ont lâché leur droit de grève contre des augmentations de salaire. Donc, il faut quand même le dire, quoi. Il y a une cinquantaine d'années, ils ont dit, ouais, ok, c'est bon, on lâche notre droit de grève. Et puis, comme ça, je sais plus, ils avaient gagné 10-15%.
Enfin, en tout cas, ils pourraient décider, au-delà de ça, qu'ils revendiquent collectivement, je ne sais pas, genre en bloquant leur prison à d'autres niveaux, mais eux, ils décident, enfin voilà, ils ne bloquent pas leur outil de travail comme, je ne sais pas, genre des enfin, tu vois, comme quand les cheminots font grève ou dans une usine ou je ne sais où. Ils font ça sur le dos de personnes qui sont déjà dans des conditions archi difficiles et donc ils font ça sur le dos des personnes et sur le dos de leurs proches. Donc c'est pas, enfin voilà, il faut pas croire que c'est une grève comme les autres, comme on aimerait nous le faire croire dans cette grande couverture médiatique insupportable à laquelle on a eu droit cette semaine et à laquelle on a souvent le droit à chaque blocage de maton, quoi.
Et comme tu disais, les critiquer, ça s'expose à recevoir des critiques aussi. Ah, bah, cette fois, vous n'êtes pas pour la grève, vous êtes. Quand c'est eux, c'est pas la même chose. Et il faut le dire, dans la continuité de ce que vous étiez en train de dire, c'est tout le temps des grèves qui se font contre les prisonniers et les prisonnières pour durcir leurs conditions, pour les fliquer. Et on le voit bien encore aujourd'hui, leurs problèmes ne viennent que des prisonniers et jamais des... Enfin, les critiques contre l'administration pénitentiaire, elles sont minimes, en fait, au fond dans leurs revendications.
Ouais, puis t'inquiète, qui bloque jamais le directeur de la tôle quand il veut rentrer, qui veut rentrer à l'intérieur, ça c'est clair. Et en fait, ce qu'ils font juste, c'est qu'ils utilisent le moyen d'une punition collective à tout le monde pour revendiquer plus de moyens de d'emmerder les prisonniers et tout quoi. Et c'est clair que ça a rien à voir. Enfin voilà, le principe d'une grève, c'est de ralentir l'activité économique pour faire perdre de la thune au patron. Et voilà. Et donc là, en fait, quand t'as pas de train, tu peux pas aller travailler. Donc, ça fait que y a pas d'activité, y a moins d'activité économique et tout. Là, en fait, c'est pas ça qui se passe parce qu'en fait, ils font que renforcer le rôle de la prison, et qui est de toujours mettre à distance une certaine catégorie de la population qu'on considère dangereuse dans une société capitaliste, quoi.
Et la punir.
Et donc ils font que renforcer. En fait, ils appliquent ce que beaucoup aimeraient que ça soit appliqué. Mais que, à force de lutte, principalement de l'intérieur, en fait, les prisonniers ont réussi à s'ouvrir des. Je sais même pas si on peut appeler ça des droits, mais en tout cas, un peu d'amélioration de leur sort. Et donc. En fait, ce qu'ils font en faisant ça, c'est appliquer ce que voudrait tout le maximum de fachos et tout. Mais donc, c'est en rien ralentir l'activité économique parce que ça, en fait, ça bénéficie de ouf aux autres, quoi.
Et on le voit en 2018, si le mouvement s'est arrêté en partie, c'est parce qu'il y a une autodéfense des prisonniers et des prisonnières qui se sont mis à demander qu'on arrête les conditions qui leur étaient faites. Et là, il y a eu un coup de flip dans l'administration pénitentiaire de « ça peut partir en live ». Et c'est à ce moment-là qu'a été envoyé les gendarmes mobiles et les CRS sur les blocages pour débloquer les entrées des prisons qui étaient bloquées plus d'une dizaine de jours à ce moment-là.
Ouais, donc c'est vraiment un rapport de force qui, quand ça dure longtemps, c'est vraiment le rapport de force qui se met en place. Et on peut renvoyer d'ailleurs pour ça aux images de Condé qu'il y avait eu en 2018, voilà, que vous retrouverez facilement sur le site, où en fait des gens, Yuri qui après a correspondu quelques temps avec l'envolé, notamment, mais il y avait 5-6 prisonniers en fait qui se faisaient passer un bigot pour raconter ce qu'était en train de se passer, et surtout qu'à ce moment-là, en plus, les rares matons qui restaient dans l'établissement, mais ils étaient d'une violence totale, quoi. Enfin, c'était du délire, quoi.
C'était 2019, je crois.
C'était 2019, ouais. Pardon.
Et d'ailleurs, on a rediffusé récemment les extraits de ces audios, donc c'est pareil, c'est sur le site de l'Envolé, si vous voulez les écouter. Et je crois qu'il y avait un autre témoignage qu'on voulait lire, de toujours à propos du blocage de 2024 de Blanche. Bonjour l'Envolé, je viens de recevoir votre courrier. Merci, ça fait du bien, car pendant 2 jours, pas de courrier distribué. C'est très chaud ici, vu les circonstances qu'il y a eu au centre pénitentiaire de Caen, car c'était 2 surveillants de notre CP, du coup, plus rien. Atelier fermé, le culturel fermé, plus d'activité, plus de rendez-vous, plus de distribution de cantine, plus de parloir, et ce n'est pas prêt de s'arranger. On nous laisse pour l'instant les portes ouvertes et la promenade, mais ça va aller de pire en pire, vu les discussions que nous avons eues avec eux, les surveillants. Pour l'instant, c'est calme, car ils respectent le deuil de leurs collègues, mais dès que les funérailles seront finies, c'est là que ça va bouger. Ce matin, Dupont-Moretti était là, mais il n'est pas rentré. On aurait voulu qu'il rentre pour que nous, les détenus, nous puissions lui dire notre mécontentement, les conditions de vie ici à Caen, les cellules insalubres, l'hygiène et tout le reste. Même les surveillants ont honte de voir les conditions dans lesquelles on vit. Il faudrait qu'on nous aide de l'extérieur, qu'on puisse nous entendre. Madame Dominique Simoneau se bat pour nous, mais personne ne l'écoute. Le gouvernement n'en a rien à foutre, qu'on soit comme des animaux en cage, comme à la SPA. Désolée de faire une lettre aussi courte, mais je n'ai pas la force de parler d'autre chose. Rien ne va. Ici, c'est très dur. Blanche.
Ouais, cette lettre, on voulait notamment y revenir parce que ça parle de Simoneau. Et en fait, Simoneau a quand même pas mal pris la parole là ces derniers temps. Donc, vous savez ce qu'on pense ici de Simoneau. Qui, comme le CGLPL, en fait, c'est une institution fantoche pour donner la croyance qu'on vit dans un état de droit, et dans lequel, en fait, on fait un peu attention humainement aux prisonniers. Mais en fait, n'importe quel prisonnier qui a contacté Simoneau, en fait, c'est combien de mois il a fallu qu'il attende ou qu'elle attende pour avoir une réponse. Et généralement, la réponse, c'était de lui dire « oui, vos droits, ils sont pas respectés ». Merci, au revoir. Donc c'est vraiment c'est une institution qui est des institutions de façade comme les social-démocraties savent très bien en faire. Ça nous semblait important là d'en reparler parce qu'il y a quand même eu un peu une évolution dans le discours de Simoneau ces derniers temps, et notamment là j'étais en train de le rechercher mais je le retrouve plus dans mes souvenirs. Il y a eu une tribune il y a eu quelques semaines voire mois de beaucoup de syndicats et d'assos contre la surpopulation, un peu autour de Simoneau. Donc en fait, ils sont vraiment tous en train de pousser contre la surpopulation. Mais surtout, en fait, Simoneau, elle est réellement en train de jouer le jeu du fait que les prisonniers et les surveillants sont dans un même bateau, quoi. Et donc, elle, dont le rôle devrait être de protéger les prisonniers de la violence des matons et des conditions indignes d'enfermement, en fait, elle commence à dire que les conditions pour les surveillants est vraiment difficile, et donc en fait c'est une même pièce, quoi. Nous on pense que ça c'est des manières de faire qui sont extrêmement extrêmement dangereuses parce qu'en fait on sait, c'est ce que tu rappelais tout à l'heure Gabriel là, c'est qu'en fait tout ce que les matons vont obtenir, ça va se faire sur le dos des prisonniers, et donc que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté commence à dire en fait matons prisonniers prisonnières même combat, en fait c'est juste faux.
faux et historiquement ça a toujours été faux. Chaque fois que des matons ils ont obtenu quelque chose, ça s'est fait sur le dos des prisonniers. Voilà, on ne cessera de le rappeler. Et donc, on voit bien comment elle peut penser que ça pourrait potentiellement être stratégique parce qu'on va mieux écouter son discours et tout ça, mais en fait, il n'y a rien de plus dangereux que de faire un truc pareil et de commencer à être en soi-disant pitié sur les matons. Et donc, ça nous semblait important aussi de rappeler ce truc-là, parce que quand même les institutions qui sont là pour soi-disant défendre les droits des prisonniers et des prisonnières partent en couille là-dessus, ça craint quoi.
Et c'est aussi un peu, des fois, à l'image de ce qui se fait dans la police, où en fait, il faut aussi savoir qu'il y a tout un jeu où une partie des syndicats de matons sont reliés à des syndicats de transformation qu'on appelle transformation sociale. Par exemple, l'UNSA pénitentiaire ou UFO pénitentiaire qui est reliée de manière plus large à des grosses centrales qui n'ont pas forcément les mêmes positions. Et il y a toujours un jeu de dupes comme sur la police où les positions ne sont jamais très claires et on ne sait jamais aussi qui s'exprime dans ces syndicats et sûrement pas la majorité des syndiqués et les lignes générales, et c'est souvent plus des pressions qui viennent des grosses centrales qui sont, comme tu disais, humanistes et de gauche, mais qui se font un peu contraintes, qui contraignent un peu les fédérations, mais qui expriment pas vraiment quelque chose de profond quoi.
Ouais, puis souvent c'est fait aussi par la branche SPIP qui sont soi-disant les travailleurs sociaux et tout ça, mais bon, on l'a longuement répété quel était le rôle de ces gens-là dans l'application de la peine et tout, et donc en fait c'est juste un maton social plus que c'est tout quoi. Mais donc voilà, ça nous semblait, sur cette lutte contre le surenfermement de la population, en fait Simono là elle prend un virage qui ça fait plusieurs années qu'elle l'a pris et tout ça, mais là on l'a rebrassé, c'est particulièrement inquiétant. Le truc qui nous semblait quand même absolument essentiel de rappeler, c'est qu'en fait tout le monde a parlé de ça comme oh là là, la surpopulation carcérale, c'est vraiment craignos, c'est tout ça, et comme si en fait ça venait du ciel quoi. Ça c'était aussi extrêmement énervant à attendre, parce que bon, il y a déjà tout ce climat politique de surrépression qu'on entend tout le temps, comme souvent on vous le dit, chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, en fait c'est vraiment hallucinant depuis 5 ans le nombre de lois répressives qui ont été faites. Et en fait quand il y a 25 ans l'envolée avait débuté quoi, en fait il y avait des lois répressives tous les 2-3 ans quoi. Aujourd'hui on s'en tape une tous les 6 mois voire une tous les 3 mois quoi.
Ouais, on a l'impression de faire du commentaire de Darmanin à chaque émission en ce moment, et c'est pas que des effets d'annonce, c'est pas que sa guéguerre avec Retailleau pour savoir qui va être le candidat être candidat à la présidentielle, c'est pas que des discours sécuritaires pour se mettre dans l'air du temps, ça a vraiment des conséquences. On a parlé pendant hyper longtemps de comment la loi Narcos allait permettre d'enfermer plus et d'enfermer de manière affreuse et d'enfermer plus longtemps. Et là, c'est exactement ce qu'on voit. Et on renvoie aussi à l'émission qu'on a faite la semaine dernière, où on a parlé justement du nouveau projet de loi qui est en ce moment au Sénat, qui est la loi sûre, dont l'objectif et les conséquences aussi, ça va être, encore une fois, de condamner davantage et d'enfermer davantage, hein, puisque le point de départ de la loi, ce serait l'idée, donc c'est pour, on rappelle, des sanctions utiles et efficaces, c'est ça quand même l'acronyme. Et donc voilà, ça repose quand même, cette loi, sur la fiction selon laquelle on n'enfermerait pas assez, il y aurait trop de laxisme, etc. Donc avec la mise en place d'un plaidé coupable criminel qui permettrait en faisant vraiment la pression sur des gens en préventive, de leur faire accepter en miroitant une réduction aux deux tiers de la peine maximale, hein, qui n'est pas forcément la peine à laquelle on aurait été condamné, de leur faire accepter de reconnaître leur culpabilité si les parties civiles sont d'accord. Et donc, au lieu d'avoir un mois, deux mois de procès aux assises, on a un jugement qui est fait en une demi-journée, sans témoin, sans expert, etc. Et donc, qui permet d'envoyer des gens jusqu'à 30 ans en prison. Et aussi la réforme des cours criminelles départementales qui aurait pour objectif de permettre de juger des procès criminels dans tous les tribunaux judiciaires de France, donc de pouvoir faire beaucoup plus de procès criminels. Et pour avoir suffisamment de magistrats pour le faire, on remplacerait une partie du personnel par des entre guillemets citoyens assesseurs, donc des gens qui auraient des petites compétences en droit qui pourraient se substituer aux juges. Et l'objectif de tout ça, hein, c'est de condamner davantage, d'envoyer davantage de gens en prison c'est quand même en bonne voie pour passer cette loi, même si on ne l'espère pas, mais c'est quand même le chemin qui en est pris et ça fait partie de tout cet arsenal législatif qui va avoir des conséquences vraiment dramatiques et participer à ce surenfermement de la population.
Et donc d'un côté, en fait, ils augmentent toutes ces lois et tout ça, sauf qu'en fait, de l'autre côté, en fait, ils voient bien qu'on augmente continuellement le nombre de prisonniers, que de facto, ils ne peuvent pas réussir à combler le fait qu'il y ait 5000 prisonniers de plus par an. Même là, en fait, Darmanin, il avait annoncé ses prisons modulaires, tout le bordel, là, le truc qui, soi-disant, va aller vite et tout ça. Mais même l'année prochaine, il ne va pas réussir à en construire plus que 1500. Donc de toute façon, ça n'arrivera jamais à suivre. Et donc ils sont quand même tenus par un truc qui fait que c'est vraiment pas tenable. Donc Darmanin n'arrête pas de dire il est contre un mécanisme de régulation carcérale et tout. Donc lui, sa stratégie, c'est donc ses prisons modulaires, mais qui vont jamais en fait réussir à compenser. Et de l'autre côté, il annonce comme tout fasciste qu'il est, que en fait il vire des étrangers, soit en milieu de peine et autres, ou avec des accords bilatéraux, pour qu'il y ait le moins possible d'étrangers qui soient dans les prisons en France. Et c'est comme ça qu'ils comptent les vider. Donc c'est vraiment la double peine accélérée, quoi.
Et sur ce que tu dis, sur cette double peine qui va être appliquée, même les syndicats de Maton ne sont pas dupes, puisqu'ils ont réagi en disant « mais ça ne va rien changer à la situation », puisque ce n'est pas ça le cœur de leur lutte, mais de dire... Enfin, leur lutte. De dire ça...
De leur moins.
Ouais. c'est totalement faux. Et c'est, comme tu dis, juste pour avoir une mesure raciste de plus et faire du chiffre.
Ouais, carrément. Et c'est aussi, en fait, un vrai truc qui concrètement se passe pour les prisonniers. Parce que, donc, il y a deux types de mesures qu'il annonce, quoi. Mais il y a un truc où, en fait, en gros, il file des remises de peine aux prisonniers pour pouvoir les expulser directement, quoi. Donc, on va filer aux étrangers des remises de peine pour pouvoir les expulser. Ce qui est vraiment, enfin, ignoble, quoi. Donc, c'est clairement le retour de la double peine. Ça s'applique, en fait le truc c'est qu'en fait ça s'applique aussi tout le temps pour les prisonniers qui sont envoyés en CRA à la fin de leur peine, ou maintenant tu peux plus renouveler un titre de séjour ou presque pas quand t'es à l'intérieur de la détention, et donc tu te retrouves directement à aller en CRA à la fin de ta peine, donc ça c'est vraiment dans la stratégie et tout, sauf que quand même il y a un type je sais pas c'est qui, mais en tout cas qui est avec eux, quoi, un député qui veut faire voter une loi sur de régulation. Donc ils nous font des petits blabla là dans la presse pour nous dire que c'est un type qui est apprécié un peu par tout le monde, qui est un pote de Darmanin, blablabla. Donc enfin c'est juste, ils veulent un peu essayer de nous faire croire qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer là-dessus, et donc soi-disant il veut le faire un mécanisme de régulation sociale, de régulation carcérale. Régulation sociale, c'est un bon lapsus, pourquoi c'est un bon lapsus, c'est parce qu'en fait il décrit en gros qui, enfin parmi les choses qu'ils veulent faire, c'est tout d'abord essayer de mettre en place ce qu'ils ont soi-disant fait pendant le Covid, mais en fait ce qu'ils n'ont pas du tout fait pendant le Covid. Enfin, on a pour habitude de rappeler à chaque fois que pendant le Covid, ce n'est pas des prisonniers qui ont été libérés massivement. Voilà, c'est juste qu'il n'y a plus personne qui est rentré en détention. Sauf qu'il y a ce narratif qui a été gobé et annoncé par tous les ministres et tout ça de l'époque. Mais donc... il dit on va faire ce même truc, donc c'est-à-dire à partir, donc là il y a débat, est-ce que ça sera 6 mois, 2 mois avant la fin de la peine, au filet des remises de peine pour être surveillé à l'extérieur. Je rappelle que voilà, ça veut dire finir sa peine sous bracelet, ça veut dire voilà, donc t'es toujours pas libre, donc ça fait partie des trucs quand même qui sont absolument essentiels à rappeler. Quand t'es à l'extérieur et contrôlé par l'administration pénitentiaire, tu restes sous main de justice. Voilà, donc ça c'est le premier truc, mais il dit bien qu'il en exclut tout un panel de condamnations va faire en sorte que la délinquance des quartiers populaires, tu vas pas pouvoir avoir d'aménagement de peine. En gros, si c'est pour du trafic, parce que c'est bon, bien sûr ils disent narcotrafic ou ce genre de truc, mais enfin tu vois, il suffit que tu te sois fait lever en bas de ta tour et voilà quoi. Et en fait ils enlèvent toute une grosse partie des trucs en disant non, mais ça par contre ça pourra pas être aménageable, donc c'est vraiment de la catégorisation sociale. Et ça bien sûr par contre voilà quoi, le délit d'initié, les délits bourgeois en fait, voilà, eux par contre ils font pas partie des trucs qui vont être enlevés. Donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième proposition qu'ils font, c'est on va voir si ça va être voté, parce que tout le monde dit qu'ils veulent pas et tout ça, mais n'empêche que c'est important de commencer à s'y préparer, parce que ça va toujours être présenté comme étant un truc vachement humaniste, alors que dans la pratique ça va être affreux. Ça va être de transférer des gens vers un établissement qui est moins en surpopulation. Donc voilà, concrètement en vrai on voit pas comment ça va pouvoir être fait, parce que en gros tous les établissements, maisons d'arrêt et tout ça, en fait ils sont tous surchargés, donc on voit pas trop comment ils vont pouvoir et tout ça envoyer quelqu'un à gauche à droite. Mais surtout c'est exactement ce mécanisme qu'ils ont mis en place pour que les prisonniers soient... Enfin, l'Union européenne a un peu tapé les doigts la France en disant ouais, ce serait bien qu'en fait les prisonniers, ils n'attendent pas d'arriver à la CEDH 10 ans après avoir subi des conditions de détention affreuses pour qu'il y ait des recours qui deviennent effectifs, quoi. Et donc, ils ont été obligés de changer un petit peu la loi, mais donc tout ce qu'ils ont cherché à faire, c'est faire un truc de changer la loi sans que ça puisse être utilisable. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit... un prisonnier pourra faire ce recours il sera transféré vers une tôle qui sera meilleure. Mais donc ça veut dire que tu seras éloigné de tes proches, et donc ce qui fait qu'il n'y a aucun prisonnier qui le demande. Et donc ils ont changé la loi, ils se sont mis en accord avec l'Europe, mais sauf que dans la pratique en fait c'est inutilisable et c'est jamais fait. Et donc là c'est ça qu'ils souhaitent faire aussi, c'est donc renvoyer quelqu'un. Et donc on sait les conséquences que ça va avoir sur la famille, sur les proches, sur la personne à l'intérieur, et voilà. Et donc en fait ils arrivent quand même à créer des trucs qui vont être des quasi transferts d'ici pour cause de surpopulation, voilà, et c'est complètement estomacant, quoi.
De faire payer aux prisonniers le surenfermement qu'ils payent déjà au quotidien, quoi. C'est quand même hyper fort, tout en habillant ça de grandes mesures humanistes.
Et on a été encore hyper long, donc en fait, on va pas mettre une musique longue, on va mettre une petite musique.
C'est pas rappé. 9-3 c'est un métier. 9-3 c'est un métier. 800-800-270. 800-800-270. 9-3-800-270. 9-3-800-270. Stavo les travaux. 9-3 le drapeau. Je shoot comme Doku. Pas besoin de deux coups. Méchant comme Boubou. 9-3 comme Doudou. C'est nous qu'on redoute. Enfance compliquée. Erreur qu'on redouble. Toujours impliqué. Toujours impliqué. La Lika qui débite. Autant qu'à Hazy. C'est en GAV qu'on devient amnésie. Le bonheur en euro est compté en valise. À deux sur la moto. Une calage bradée. Des corps criblés. Que pour le blé. Une file indienne qui fait plusieurs étages. Que pour la biodro, c'est pas une série. Orgemont, c'est vrai, c'est mauvais ménage. J'ai mis le quechua, pas le jean à mairie. 93, je viens pas d'Amérique. L'hiver, c'est pas l'été. Non. Braquer, c'est pas rapper. Non. 9-3, c'est un métier. Ouais. 9-3, c'est un métier. 800-800-270. 800-800-270. 9-3-800-270. 9-3-800-270.
L'hiver c'est pas l'été.
Non.
Brave qu'est-ce c'est pas rapé.
Non.
9-3 c'est un métier.
Ouais.
9-3 c'est un métier. 800-800-270 800-800-270 9-3-800-270 9-3-800-270. En full black, ils ont fini tous cachés. T'es la rue d'avant, plus maintenant comme Bouscapé. Y'a plus personne comme après un coup de tarpé. Shooter, avant-mar, bref, le parté. Y'a les touches car les 3 quarts ont fait le quart plat. On est branché,
et je te parle pas de carplay.
Je veux manger comme si j'sortais de garda. J'crois ce que je vois et tout ce qui devient palpable.
On recrute à la paire de couilles. Finir cagoulé, on s'en fout des beaux mecs. Mais j'connais des Italiens qui ont appris le français au beau mètre.
Tournez le poignet,
protéger le nez, conserver les clients. J'en fous, c'est le poids qui dit c'est combien.
Ouais,
c'est la quantité que tu prends le prix final. Pour le gros, demande pas c'est combien. Pour le détail, c'est écrit sur les murs comme à Marseille.
Comme à Marseille.
Demande pas c'est combien, c'est écrit sur les murs du 93.
Comme à Sevran.
Demande pas c'est combien, c'est écrit sur les murs du 93. L'hiver c'est pas l'été.
Non. Braquer c'est pas rapé.
Non. 9-3 c'est un métier.
Ouais. 9-3 c'est un métier. 800-800-270 800-800-270 9-3-800-270 9-3-800-270.
L'hiver c'est pas l'été.
Non. Braquer c'est pas rapé.
Non. 9-3 c'est un métier.
Ouais. 9-3 c'est un métier. 800-800-270 800-800-270 9-3-800-270 9-3-800-270.
Recoucou. On est toujours en direct en ce 1er mai 2026 à la radio, à l'Envolée. On rappelle les contacts.
Très vite, ouais, c'est pour nous écrire l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris pour nous joindre toute la semaine par répondeur texto, appli, c'est le 07 53 10 31 95. Je donne pas le direct parce que l'émission est bientôt finie. Par mail à contact@l'envolée.net et sur Insta à l'envolée journal tout attaché. Et donc, on continue de parler de ce qui s'est passé lundi avec ce blocage de matons qui ont décidé de faire construire leur rapport de force, comme ils le disent dans leur super tract, avec l'administration pénitentiaire et le ministère, comme d'habitude, sur le dos des prisonniers et au passage de faire preuve un petit peu de leur sadisme à l'encontre des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Et dans cette dernière partie d'émission, on voulait revenir un petit peu justement sur la manière aussi dont tout ça, ça fait partie de rapports de force qui sont le fait des syndicats. Donc il me semble qu'il y a des élections professionnelles qui arrivent
fin décembre 2026 dans toute la fonction publique, donc aussi dans...
Et donc voilà, ce blocage où ils prennent un petit peu comme prétexte cette question de la surpopulation qui entraînerait selon eux une dégradation insupportable de leurs conditions de travail. Hein. On rappelle que c'est pas la situation, le bien-être et les souffrances des prisonniers qu'ils ont à cœur quand ils dénoncent, eux, la surpopulation. Hein, c'est vraiment leur nombril. Donc, ils ont pris ça comme prétexte aussi pour s'affirmer un petit peu dans ces questions d'élection. Donc, le blocage, il a surtout été appelé par deux syndicats qui sont... l'UNSA, UFAP d'un côté, la CGT pénitentiaire de l'autre.
Qui sont respectivement deuxième et troisième syndicats représentatifs.
Là où, ouais, carrément, t'as tout à fait raison de le dire. Et là où FO, qui est majoritaire, du coup, a appelé plutôt à temporiser.
Ouais, c'est ça.
Et donc voilà, donc ça a été aussi un moyen de faire ce rapport de force là sur le dos des prisonniers pour ensuite aller arriver au ministère avec tout un tas de revendications,
ce que tu dis sur les revendications.
Ouais, c'est de revendiquer donc de à la fois d'embaucher hein, toujours plus de surveillants et leurs revendications étaient aussi donc ce qu'ils appellent un peu la révision de la journée en détention. Donc ça, on sait qu'on... Enfin voilà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire quand ils disent ça. On ne sait pas si c'est leur organisation de travail à eux ou, et plus préoccupant, et ce ne serait pas non plus très délirant que ça soit ça, c'est la révision de la journée, justement, de l'organisation de, pour les prisonniers, quoi, la journée pour les prisonniers, puisqu'on rappelle que le but ultime des matons vis-à-vis des prisonniers, c'est quand même d'en faire vraiment le moins possible. Donc les revendications, c'est toujours moins de promenades, moins d'activités, moins de parloirs, évidemment moins d'extraction judiciaire et d'extraction médicale, comme on le disait en début d'émission. Le but étant, voilà, d'en faire le moins possible. Donc on ne sait pas si ça aussi, c'était un peu ce qui mettait derrière cette idée de réorganisation de la journée en détention. Mais il faut le craindre, hein, puisque c'est quelque chose qu'ils demandent hyper régulièrement. Par exemple, dans le cas des QLCO, ils ont aussi, au moment de la mise en place des QLCO, ils ont aussi fait vachement pression sur le ministère et sur Darmanin pour obtenir le moins de mouvements au sein de la détention possible pour les prisonniers qui étaient détenus dans ces QLCO. Encore une fois, en expliquant que leurs conditions étaient insupportables, qu'ils étaient trop peu nombreux, qu'ils étaient hyper menacés par ces grands méchants de narcos. En vrai, comme d'habitude, hein, pour en faire le moins possible.
Et on peut le voir dans les batailles de tracts générées à l'IA par ChatGPT ou Gemini qui se livre, en fait, il y a aussi cette demande constante que le maximum de contacts avec les détenus se fasse avec des unités spéciales. C'est aussi, en tout cas, l'UNSA, ce qu'elle revendiquait. On voyait une affiche pour vous la décrire assez rapidement, où il était écrit quelque chose de « on veut plus, pour pas crever dedans les tôles, on va crever devant », quoi, qui justifiait le blocage des prisons. Et ce truc-là où il y avait en fait tout plein de sigles, donc les ERIS par exemple, d'unités spéciales qui existent en prison, et cette demande-là que le maximum d'intervention auprès des prisonnières et des prisonniers se fasse avec des unités spéciales. Sur ce que tu disais, qu'il n'y avait pas tous les syndicats qui participaient et qu'il y avait un peu des bisbis entre eux qui étaient liés aux élections professionnelles. C'est permanent, en fait, quand on va sur les sites de syndicats de matons. C'est une dinguerie, comme, en fait, ils passent leur temps à s'embrouiller entre eux, à avoir des revendications les plus corpos et les plus débiles possibles, à s'inventer des victoires sur des bouts de cheveux ou sur une répression faite de plus en plus aux prisonnières et prisonniers, et qui a aucun sens vraiment, et sur la manière aussi dont cette mobilisation, c'est une séquence médiatique. On avait parlé à cette antenne au début de l'automne des mobilisations de flics contre l'insécurité. J'ai un peu l'impression que c'est toujours le même mécanisme, quoi. Ils essayent de faire monter la sauce de quelque chose de médiatiquement hyper corpo, pour après avoir une réunion avec, même pas le ministre, avec des obscurs personnages de l'organigramme de l'administration pénitentiaire pour le revendiquer dans leur tract et pour dire on a obtenu ça grâce à nous, et oubliez pas que FO, eux, revendiquaient ci, ça. Enfin, dans un des communiqués qui venait de Fleury Mérogis, Les détenus en 2018 parlaient d'une prise d'otage, et c'est réellement ça qui est fait en permanence dans les communications syndicales qui instrumentalisent en permanence les détenus.
Ouais, à la base, on voulait vous lire un peu ces deux textes, mais on peut vous renvoyer à Info Kiosque sur Internet, où il y a deux textes, un de Marina, qui a été une correspondante régulière de l'Envolée, et puis un autre d'un collectif de prisonniers de la MAF de Fleury en 2018 contre le blocage, et qui décrivent vraiment bien ça, quoi, et que les surveillants, en fait, c'est pas des salariés comme les autres, en fait. Voilà. Et en fait, c'est des salariés du capital, en fait, qui sont là, comme rôle, comme les policiers, de maintenir un ordre dans la société capitaliste, quoi. Et donc ça c'est quand même vraiment important. Et c'est peut-être aussi l'un des trucs sur lesquels c'est particulièrement agaçant. Et on dit ça de manière gentille, de voir en fait la CGT accepter les matons. Voilà. Quand, c'est ça qui est quand même un peu ouf, c'est qu'en fait la CGT, ils n'acceptent pas de keuf. C'est normal, quoi. Après le massacre de Charonne et tout ça, c'est pas possible quand tu as eu 5 de tes militants qui se sont fait buter par des keufs. Non, si, ils acceptent.
Il y a une CGT police, ouais.
Ah putain, j'étais sûr que non. Non, mais c'est la CGT ministère de l'Intérieur.
Ouais, mais qui peut aussi.
Et ça peut être aussi des keufs. Moi, je croyais qu'ils disaient toujours, ah, vas-y, c'est les gens qui font le ménage ou ce genre de
truc. Ouais, ça mais c'est un peu le même truc qu'à Sud ou dans les trucs quand il y a des. C'est des gens souvent très isolés et c'est des RG ou des trucs comme ça où ils trouvent tout le temps une excuse. Comme ce que tu disais, mais aussi des vrais pères. Enfin,
tu vois, moi, je suis trop naïf, quoi. En tout cas, je pensais qu'ils avaient compris au moins là-dessus, mais donc, en fait, ils arrivent à accepter des gens qui butent leur propre militant. Je sais même pas quoi en penser, en fait. Voilà. Mais donc, ce que je voulais dire, ça se pète un peu la gueule, parce que c'est de dire que les gens, ils avaient pas encore compris que la justice, c'était pas un outil de lutte, mais qu'en fait, c'était un truc que c'est ce que pensent beaucoup de syndicalistes et autres, mais que, en fait, c'est un truc qui va continuer à les réprimer. Voilà. Mais bon.
Et aussi de dire que tous les syndicats qu'on cite, et même l'UNSA, la CFDT, qui ont des fédérations qui syndiquent massivement les... Mmh. C'est les premiers, à juste titre, à faire des manifestations qui dénoncent la fascisation, l'extrême droite. Les syndicats de matons sont les premiers à être dans cette dérive qui a un puissant fond. Parce qu'avant, ça n'allait pas, mais maintenant, c'est encore pire. Parce qu'il y a un syndicat qui était ultra-corpo, qui s'appelle le SPS, et qui tenait déjà des positions vraiment... vraiment horrible. On vous renvoie au numéro 48 de l'Envolée où il y a des témoignages de ce syndicat-là et des échanges qui se déroulent sur des groupes Facebook de syndicats qui sont à vomir et qui sont devenus en fait monnaie courante chez tous les autres syndicats, les FO, les UNSA, un peu moins peut-être la CGT, mais en tout cas UNSA et FO appellent à des manifestations contre la fascisation, contre l'extrême droite. Encore récemment, quoi.
Faites le ménage, déjà, pour commencer. On finit hyper à l'arrache.
Ouais.
Plein de force à tous les prisonniers, à toutes les prisonnières qui ont subi ces blocages. N'hésitez pas à nous raconter. On sait que, du coup, le courrier a été aussi perturbé avec ce qui s'est passé. N'hésitez pas à nous dire, et donc on avait un petit agenda.
Ouais,
aussi.
Je le fais vraiment très très vite. À Paris, pour les gens qui sont dehors, place du 8 mai, le 8 mai, place du Panthéon, contre la manif fasciste du 9 mai. Voilà, le Tartu Circus le 23 et 24 mai en Bretagne, au Moulin à Val d'Oraste. Le procès du 8-12 qui aura lieu du 4 au 7 mai, du 11 au 13 et du 20 au 22 mai au tribunal, à la cour d'appel de Paris. L'appel du collectif autour de Najet pour des actions contre les violences pénitentiaires les 29 et 30 et 31 mai et les 30, et donc ça c'est un appel national à chacun de se mobiliser, et les 30 et 31 mai à l'Armphone à Marseille. On avait passé un petit passage dans une émission précédemment qui racontait ce que c'était qu'à l'Armphone. Et donc, c'est à Marseille, à la fraternité de la Belle de Mai, pardon. Voilà.
Et on a des petits coucous. Un coucou à Kémy, à Blanche, à Mauben, à Aurélie, BN, Fabrice, Zouzou, Redouane, Nicolas, Mohamed, Pascal, à tous les prisonniers, toutes les prisonnières et à leurs proches. Rediffusion mercredi 8h30.
Tu voulais passer un coucou.
Voulait aussi passer un coucou aux 7 prisonniers et prisonnières qui sont évadés par une bouche d'aération du CRA de Vincennes le week-end dernier.
Yes.
Force à eux.
Ouais, bon vent.
Carrément.
Et donc, force, courage et détermination.
Et comme d'habitude, il n'y a pas d'arrangement.
À la semaine prochaine, rediffusion mercredi matin, 8h30.
Voyou, suicidaire comme le Hamas. T'as le choix, c'est Gaza ou une menace au Kalash. 22 ans ferme dans le même horizon. J'ai pris une longue peine, donc j'ai le droit à 5 minutes d'évasion. Moi j'ai pas eu mon bac, mais toujours la bac au cul. J'ai violé les bacs et j'ai fait un tas de cocu. Y'a qu'à voir les bancs du commissariat. Pas d'études, pas de carrière, trop de parias, trop de barrières. Sa mère, tricard traqué comme dans mon city. Faut qu'on m'acquitte, qu'on soit quitte, Rimka et Pete. C'est sordide, la vie est triste. Mon corps me guide, et plus rien à foutre, j'ai pas peur de tomber. Dans le vide, dans l'usard, c'est pas un hasard. Mon peuple en chien, je montre pas quand je suis mal, je suis comme devant un chien. Quoi de neuf, poteau, rien. Le poids, c'est le front, c'est dramatique comme une grenade dans un jardin d'enfants.
On s'ébatte par nos voix magiques. On s'ouvre au monde dans nos voies négro du sang.
Tragique,
dans les halls, dans les blocs, tous les cœurs.
S'agit du cri sur scène, 19ème, la même peine et les mêmes parasites.
On s'ébatte par nos voix
magiques.
On s'ouvre au monde dans nos voies négro du sang.
Tragique,
dans les halls, dans les blocs, tous les cœurs.
S'agit du cri sur 19ème, la même peine et les mêmes parasites.
A chaque crime, c'est un mec qu'on enferme. A chaque crime, c'est un frère qui s'évade. A chaque crise, c'est qu'il y a un sauce qu'on enterre. La terre tourne et je fais du surplace. Je franchis les barrières, écris des rimes noires sur papier glacé. Cette vie me fait chier, sachez que je viens me lâcher. Va mâcher les mots, va chier. Si mon faciès tâché t'empêche de valser, je rapporte que mes négros faciès. Lâché, dingé, craché. Cette haine qui me motive fait chier, putain. Je voulais vivre dans la paix, pas dans le péché. Le truc c'est se repentir avant l'arrivée de la gauche. On vient là où la haine s'exprime par le sourire du pire. Je viens bâtir un empire et dire au monde que j'inspire à la paix, pas à la guerre comme on a pu le lire. Tant que je respire, j'espère.
On s'ébatte par nos voix
magique.
On s'ouvre au monde dans nos voies négro du sang.
Tragique,
dans les halls, dans les blocs, tous les cœurs.
S'agit du cri sur scène, 19ème, la même peine et les mêmes parasites.
On s'ébatte par nos voix
magique.
On s'ouvre au monde dans nos voies négro du sang.
Tragique,
dans les halls, dans les blocs, tous les cœurs.
S'agit du cri sur scène, 19ème, la même peine et les mêmes parasites.
13 sur ton blocos, j'ai fait une club, j'avais fait blackos, mais bigo, y'a aucune crêpe. Entre nous on s'aime, gros, mon équipe c'est du seum. Tu sais ce qu'on s'aime, mais quand je mourrai, j'serai seul.
J'serai seul, comme quand je flanche sur ma feuille, seul. Comme face à ces tas de flics qui m'en veulent, seul. Comme quand je suis venu, seul, j'm'évade, seul. J'marche car j'finirai seul dans mon cercueil.
J'suis à 113 degrés dans le baromètre, gris à 5 km. J'essaye d'être honnête, mais ils en faut trop, mec. Et ça faut le reconnaître. Citation à comparaître dans toutes nos boîtes aux lettres.
Toujours aussi froid, le cœur rempli de gros cris. Le monde m'a trahi, ma couille nourrie, c'est pas les tropiques. On craque parce que c'est le newf dans nos crânes. Je veux pas finir crade ou shooter dans le crack.
On s'ébatte par nos voix
magique.
On s'ouvre au monde dans nos voies négro du sang.
Tragique,
dans les halls, dans les blocs, tous les cœurs.
S'agit du cri sur scène, 19ème, la même peine et les mêmes parasites.
On s'ébatte par nos voix
magique.
On s'ouvre au monde dans nos voies négro du sang.
Tragique,
dans les halls, dans les blocs, tous les cœurs.
S'agit du cri sur scène, 19ème, la même peine et les mêmes parasites.
On s'ébatte par nos voix
magique.
On s'ouvre au monde dans nos voies négro du sang.
Tragique,
dans les halls, dans les blocs, tous les cœurs.
S'agit du cri sur scène, 19ème, la même peine et les mêmes parasites.
On s'ébatte par nos voix
magique.
On s'ouvre au monde dans nos voies négro du sang.
Tragique,
dans les halls, dans les blocs, tous les cœurs.
S'agit du cri sur scène, 19ème, la même peine et les mêmes parasites.
Tous les cœurs s'agitent.